Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien sûr et comme chaque jour, avec notre duo d'attaquants. Ils marquent des buts toutes les semaines, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Bonjour, je suis d'attaque, je ne suis pas mort, fan de Facebook qui m'a cherché, je suis juste bloqué par Facebook.
Alors Rémi, en plus, il est d'attaque pour marquer des buts, il porte un numéro 16, mais par contre c'est le numéro 16 du Portugal. Alors il doit y avoir une allusion, non? 6 plus 1, ça fait combien Rémi? Freddy Koula à vos côtés, bonjour Freddy.
Bonjour Annie, bonjour
à tous. Notre camarade qui nous vient du Gabon, mais qui est parisien hein, pour quelque temps, c'est ça?
Ouais, parisien et
français.
Aussi marseillais, parce que j'étais à Marseille, je suis tombé fond off, comme on dit, de cette ville-là.
Il y a de quoi. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Assis sur le siège du Réfé.
Oui, je vais remonter un petit peu quand même.
Ouais, ça c'est envie de prendre du galon. Alors pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, vous êtes là donc et nous aborderons la première de Cristiano Ronaldo au Juventus Stadium de Turin sous les couleurs de la Juve. La star emmènera donc la vieille dame dans son sillage face à Lazio pour le deuxième match de Serie A, alors que Carlo Ancelotti lui dirigera le Napoli pour la première fois dans le stade San Paolo et contre des rossoneri dont il a porté les couleurs pendant 13 ans. En France, le PSG retrouvera ses stars pour recevoir Angers, alors que l'OM et les Girondins devront séduire leurs supporters un peu désorientés en ce début de saison où le mercato n'est pas encore terminé. Les Marseillais rêvent toujours d'un grand attaquant et les Bordelais rêvent d'un grand champion du monde. Ce rêve semble plus réaliste d'ailleurs. Usain Bolt, futur joueur professionnel ou athlète, jouet de son sponsor. La foudre s'entraîne pour de vrai en Australie chez les Mariners, mais son rêve de jouer pour Manchester United semble plutôt être un fantasme qu'une réalité, même si ses déclarations d'amour au ballon rond nous ont amusé, on va dire. Allez, il y aura aussi les cartons dans cette émission et puis un petit clin d'œil et plein d'encouragement à Armand Ossé, cet ex-panthère devenu Shams et à son mouvement très prometteur, One Dance. Oui, évidemment, vous connaissez ça aussi, Freddy Koula. Radio Foot, c'est parti. Maintenant, oubliez tout, nouveau départ. Tel est le très long message placardé par le sponsor de la Juve sur la Piazza Vittorio Veneto de Turin pour annoncer donc avec force détail. Il faut tout lire, mais surtout la dernière phrase, on va dire la première donc de Cristiano Ronaldo qui est bien là. Les autres prestations, le match amical dans le fief familial des Agnelli dans les Alpes, puis le premier match à Vérone n'était donc que l'ébauche d'une aventure qui serait bien plus prometteuse et qui commence donc officiellement dans le jardin de la Juventus. Une enceinte qui a eu d'ailleurs son importance au moment de décider de quitter Madrid et le Real, raconte Cristiano Ronaldo à la télévision italienne, qui se souvient avec émotion du fameux soir contre les Bianconeri. Alors, lui, il jouait avec le Real.
What I see in that stadium helps, to be honest.
Pour être tout à fait honnête, je dirais que ce que j'ai vu dans ce stade ce soir-là m'a aidé. Malheureusement, j'ai inscrit ce but contre mon équipe actuelle, mais c'est du passé. Pour moi, c'est le plus beau but de ma carrière. Puis de voir le stade tout entier m'applaudir, je me suis dit « waouh, ça ne m'était jamais arrivé ». J'étais surpris. C'était un moment absolument incroyable.
Non. Errore di Chiellini, palla dietro e poi Buffon proprio sul 17, attenzione a Carvajal. Straordinario gol di Cristiano Ronaldo. E c'è la rovesciata da manuale di Cristiano Ronaldo.
L'Italien, le commentateur de ce soir-là, hein, partagé entre la déroute de l'équipe de la Juve et le moment incroyable vécu dans ce stade, puisque Cristiano Ronaldo avait inscrit sa fameuse bicyclette. Alors cette fois, Cristiano est de l'autre côté. Rémi, ça y est, plus de maillot blanc, un maillot rayé. Il est malin hein, quand même, il flatte déjà le public qui l'avait acclamé ce soir-là, mais il tacle aussi indirectement les socios de Bernabeu.
Oui, mais en même temps,
c'est du Cristiano.
C'est du Cristiano et surtout, il est beaucoup professionnel. Il n'est même pas amer parce que je devrais quand même dire que, au regard de tout ce qu'il a eu à vivre, et même auprès de certains coéquipiers, lorsque j'ai lu des messages de Carvajal et tout le monde qui voulait nous faire croire que, avec ou sans Cristiano Ronaldo, le Real était de même. C'était pas la même chose parce qu'on se souvient quand même que, avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est ce Real-là qui prenait les 3-0 contre Lyon.
Ça, c'est des temps anciens.
Et tout. Donc, Cristiano Ronaldo, comme je le dis aujourd'hui, il a remporté 4 Ligues des Champions avec le Real et la saison dernière, il faut quand même se dire que...
Il en veut une sixième, hein, parce qu'il y en avait une avec Manchester.
Oui, parce que la saison dernière, ce qu'on oublie, c'est que si Cristiano Ronaldo n'était pas dans le Real n'aurait pas été qualifié pour la Ligue des Champions et il aurait terminé en 7e position. Cristiano Ronaldo, bien qu'ayant été suspendu l'année dernière pendant 5 matchs et n'ayant pas joué tous les matchs, il a quand même réussi à inscrire 26 buts et délivrer 6 passes décisives. Ce qui signifie que c'est énorme pour un joueur comme lui qui a passé pratiquement 9 saisons à marquer 50 buts par saison.
Il va continuer là parce qu'il n'a pas marqué au premier match.
Il faut se dire que Cristiano Ronaldo, c'est
une
machine.
Il a trouvé le moyen de blesser le gardien de Chievo Vérone, Sorrentino. C'était une façon comme une autre d'éliminer le meilleur élément
cassé,
sur le terrain.
Cassé, blessure à une épaule.
Non, ça n'était pas volontaire. Arrêtez.
C'était puissante.
Le résultat est là. Il y va, il ne se retient pas et le gardien du Chievo Vérone ne se relève pas.
Mais le gardien du Chievo n'est pas d'accord avec toi, plus qu'il a fait un tweet pour que Ronaldo lui a envoyé un message gentil et qu'il le remercie d'ailleurs pour son message. En gros, on est toujours dans cette histoire de fair play, mais arrêtez la guéguerre. Cristiano Ronaldo est un joueur formidable. D'ailleurs, Annie, j'en profite pour faire le parallèle un tout petit peu. Ce qui se passe avec Ronaldo et la Juventus, c'est un peu comme l'histoire d'un mec qui a croisé une femme par hasard dans une foule immense et qui malheureusement a été marié à une femme, mais une femme qui lui faisait un peu la misère. Et il a attendu justement que le divorce soit prononcé pour qu'il retrouve son amour. Et son amour, finalement, c'est cette femme-là qu'il a croisée dans une foule immense qui est censée être à l'Allianz Stadium de Turin. Ben oui, formidable, parce que cet amour-là qu'il n'avait pas finalement avec son épouse, le Real de Madrid, il est en train de la retrouver avec la fille qu'il a retrouvée et qui lui fait les beaux yeux. Je trouve cette histoire extraordinaire qui a commencé de façon formidable dans le village du président Agnelli et qui finalement, je pense, va se poursuivre à l'Allianz Stadium. Je suis pas un grand fan de Ronaldo comme Rémy Ngonou, mais je trouve l'histoire fondamentalement extraordinaire et amoureuse.
Rémy Ngonou nous a fait un recueil de proverbes. Freddy, tu vas pouvoir écrire des romans à l'eau de rose.
Je
pense, franchement. Mais faut arrêter.
Le football en lui-même, est une romance, surtout quand ça réussit.
Il n'y a pas une histoire d'argent là-dedans.
Mais non, tu sais,
il y a l'histoire. Mais vous le savez, Annie, pour ceux qui sont africains,
du Real Madrid, Cristiano Ronaldo s'est fait virer du Real Madrid parce qu'il avait 20 millions d'euros d'arriérés à payer au fisc espagnol, que le Real Madrid ne voulait pas le payer, qu'il a pris ça comme un désaveu, qu'il a dit puisque c'est ça, je m'en vais. Et à ce moment-là, Florentino Pérez lui a dit va-t'en.
Non, c'était une combinaison des faits.
Et à ce moment-là, il n'y avait pas 36 000 clubs qui voulaient Cristiano Ronaldo parce qu'il est très cher et qu'il a déjà 34 ans. Et la Juventus a sauté sur l'occasion. C'est très bien joué de la part de la Juventus, il faut bien le reconnaître. Mais il faut aussi remettre ça dans son contexte. Si effectivement Sorrentino envoie un tweet, etc., parce qu'il faut rappeler un élément important pour nos téléspectateurs, c'est que nos auditeurs, pardon,
monsieur, je vous ai dit,
Facebook Live va peut-être revenir.
De prendre la bière avant le studio.
Non, c'est après quoi. C'est après, Rémy, tu sauras pourquoi. Non, mais ce qui se passe, c'est que ce championnat d'Italie n'avait pas de droit télé au coup d'envoi, pratiquement. Ouais. Il n'avait pas de droit télé.
Oui, parce que volontairement, fédération italienne a récusé, entre guillemets,
qui a acheté les droits du championnat de France à partir de 2020. Mais bon, donc ils n'avaient pas de droit télé. Donc le championnat d'Italie est au bord de la faillite. Et Cristiano Ronaldo, c'est effectivement pour les Italiens la bouée de sauvetage. Donc Sorrentino et les autres, ils savent que si aujourd'hui ils vont pouvoir encore être payés, avoir des salaires corrects et travailler dans leur pays,
c'est une combinaison de faits. Ronaldo, de toute façon, en partant du Real de Madrid,
avec une connotation pas toujours positive.
Souvenez-vous d'ailleurs, après la finale, quand il avait fait sa fameuse déclaration, j'étais parmi ceux qui avaient dit ici sur ce plateau que ce serait le bon moment pour Ronaldo de partir. Justement, je pense que il a pesé le pour et le contre, même s'il a un tout petit peu été forcé à partir et qu'il avait énervé Florentino Pérez Suarez.
Bah, pas que lui, je pense qu'il a énervé beaucoup de monde.
Il avait énervé les socios aussi. Je pense que cette histoire d'amour qui commence, hein, on doit la regarder comme une bouée, une sorte de bouée de sauvetage entre guillemets pour le championnat italien. D'ailleurs, tout le monde, pas que les footballeurs qui pensent à leur salaire, mais tous ceux qui regardent le championnat italien et qui étaient inquiets du déclin du calcio aujourd'hui sont contents. On a vu d'ailleurs,
On va y venir sur les autres stars qui l'ont rejoint.
J'ai regardé le match contre Lokevo. Il a fait un excellent match, Ronaldo. Il manquait que le petit but.
Bon, je devrais d'abord dire que Xavier Barré, en affirmant que Cristiano Ronaldo a été viré, c'est déjà un mensonge grossier, voire grotesque. Il faudrait quand même dire que c'est Cristiano Ronaldo
là,
qui
on
demande.
Là, on y met les formes. Oui,
Non. C'est Cristiano
Ronaldo. Ils l'ont laissé partir, clairement.
Oui, mais si on le laisse partir, est-ce qu'on laisse partir une pacotille? On ne laisse pas partir une pacotille. Il faudrait quand même se dire que la preuve aujourd'hui, c'est que, et par exemple au niveau de la Juve, vous constatez que, en un bref de temps, en moins de quelques jours, eh bien, il vend 500 000 maillots. Ce qui était impossible quand on sait que Neymar n'en a vendu que 11 000 au niveau du Paris Saint-Germain. Donc, ce Cristiano Ronaldo-là, c'est celui qui vaut de l'or, c'est celui-là qui, c'est celui-là qui te marque 311 buts. En 292 matchs avec le Real.
Il n'y en a pas marqué aujourd'hui, au premier, mais on en attend évidemment.
Et n'oubliez jamais que Cristiano Ronaldo, même l'année dernière, il avait fait une série de 3 sans pouvoir marquer. Mais cependant, Cristiano Ronaldo, c'est un monsieur qui aime le challenge. Il est au Portugal. Il l'a gagné en Angleterre. Il est venu au Real Madrid. Il a prouvé ce qu'il pouvait gagner. Maintenant, il va en Italie, contrairement à d'autres qu'on nous présente souvent ici comme de très très grands joueurs, mais qui sont comme des champignons. Ils sont nés en Espagne, ils vont mourir en Espagne. Cristiano Ronaldo, lui, équipe de tel pays, va gagner à tel autre pays, repart dans l'autre pays. Comme le dit un proverbe africain, celui qui n'a mangé que les tripes ne connaît pas le goût des autres viandes.
Bon, en tout cas, Christophe, ce Cristiano, il se retrouve dans un match, dans un stade qu'il attend, qu'il le vénère presque déjà, et ça sera contre la Lazio.
Ouais, ben c'est après tout le travail d'image effectivement qui a été mené ces dernières semaines, place au terrain donc et à la vérité. Et ce qu'on ne peut pas lui retirer à Cristiano, c'est son efficacité monstrueuse. Donc il va falloir que ça se mette en route et peut-être même dès ce week-end. Voilà.
Dès ce week-end et c'est ce que
ils ont fait place nette pour lui puisqu'ils ont viré Higuain, qui était quand même pas le dernier des buteurs pour prendre Cristiano.
Certains n'y étaient pas favorables. Mais
oui.
Donc
par ailleurs, moi je tiens à signaler une chose, c'est qu'ils ont récupéré Leonardo Bonucci et je pense que c'est un très bon choix. Il faut voir que l'arrivée de Cristiano Ronaldo, encore une fois, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon coup de la part de la Juve. C'est marketing, c'est magnifique, c'est parfaitement emballé, mais ça cache aussi les problèmes de la Juve et notamment le départ de Buffon, qui est venu au Paris Saint-Germain alors qu'il devait rester au club dans un rôle d'ambassadeur. Ça cache quand même les difficultés qu'il y a eu avec certains joueurs la saison dernière. Et donc, je pense qu'il n'a pas intérêt à se louper. Et la Juventus, encore moins.
Non. La Juve, contrairement à ce que tu dis, la Juve ne s'est pas loupée parce qu'il y a Emre Can qui est arrivé là, sans pour autant oublier qu'ils ont conservé Dybala. Par exemple, attendez, Bonucci est venu, Chesney n'est pas un mauvais gardien. Et quand tu essaies de regarder, même au niveau du milieu de terrain, Pjanic, qui était sollicité par l'OFC Barcelone, n'est pas parti. Vous constatez quand même que, à côté de là, vous avez les Cuadrado et consorts qui sont restés. Tout l'axe défensif est resté, ce qui signifie que l'équipe, bien au contraire, s'est beaucoup renforcée avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais attends.
L'inquiétude sera peut-être défensivement, je suis d'accord, parce qu'on a une charnière qui est en train de vieillir, entre guillemets. On est peut-être dans le souvenir avec la performance d'il y a 2 ans de Bonucci et de Chiellini. Mais en gros, il y a une telle force aujourd'hui dans cette équipe qui se dégage de la Juventus, qu'on a l'impression qu'elle peut devenir davantage plus forte. Elle était en rodage contre Lokevo, je pense.
Ce qui sera intéressant aussi, alors pour des débuts entre guillemets à domicile, parce que là aussi ils ont joué à l'extérieur la semaine dernière, et là qui va se retrouver sur un banc d'un très très chaud, mais aussi très chaleureux stade, c'est le Stadio San Paolo au pied du Vésuve, et c'est Carlo Ancelotti, le Milanais des années de gloire des Rossoneri, sera donc au bord de la pelouse, et pour recevoir qui? Eh bien, le Milan AC, quel match, ça promet, avec Gennaro Gattuso sur le banc. Alors, c'est presque des alliances contre nature, peut-être, on peut dire, Freddy, parce qu'on se retrouve avec à la fois Ancelotti, alors le flegmatique, ou peut-être le plus plus placide, on va dire, entraîneur. Et puis de l'autre côté, le volcanique, c'est plutôt Gattuso sur le banc des Milanais.
On peut dire qu'il y a une sorte d'inversion dans le genre, mais on parlait des bonnes nouvelles du championnat italien. Finalement, la grosse bonne nouvelle, c'était Ronaldo, mais il y en a quelques-unes qui sont aussi excellentes. Le retour d'Ancelotti dans le championnat, le retour de Leonardo dans le championnat, le fait qu'on ait aussi un peu conservé Gattuso en Italie.
Il y a d'autres vedettes.
Il ne joue pas, non, ce ne sont pas des joueurs. Mais je dis que ce sont de bonnes nouvelles.
Gattuso était redevenu le centre du monde.
C'est redevenu attractif. Si Leonardo revient dans le championnat, si Ancelotti revient entraîner un club, ça veut dire que le championnat a retrouvé, entre guillemets, un peu d'attractivité. Et puis finalement, ces confrontations-là, quand on aura Naples contre le Milan AC, c'est redevenu, entre guillemets, fleurissant parce qu'il y a à la tête des personnalités qui, entre guillemets, dégagent un peu.
Que faisait Ancelotti la saison dernière?
Il était au chômage.
Ah, bah
après
voilà.
Avoir été viré.
Et Leonardo?
Leonardo
aussi.
Était...
C'est bien de se réjouir de l'arrivée de ces grands
je voulais te dire,
il faut quand même pas non plus faire croire que l'Italie devient centre du monde.
On ne fait pas croire, on parle d'une affiche, une affiche qui redevient intéressante parce que justement il y a des gens à la tête, quoi.
Monsieur Xavier Barré, qu'est-ce que faisait Pep Guardiola avant d'aller à Manchester City?
Au chômage.
Non, il était au Bayern de Munich. Il était champion.
Attendez,
il faudrait peut-être reviser vos classiques. Avant l'émission,
Rémi, c'était avant le Bayern, après le Barça,
il est allé au chômage. Donc,
non, il a choisi une année sabbatique.
Et Carlo Ancelotti, lui, ne peut pas choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ancelotti a aussi choisi.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est une affiche intéressante. Pourquoi? Parce que Ancelotti.
Nous, on trouvait que c'était intéressant, Xavier Barré.
C'est intéressant, effectivement, parce que Ancelotti est un entraîneur qui a toujours été dans des clubs où il y avait énormément d'argent et des gros joueurs.
Et il a toujours gagné.
Et il a toujours gagné. Milan, le Milan des années 2000, c'était
Milan,
le meilleur. Ensuite, le Real Madrid, ils ont été champions après lui et avant lui. Le Paris Saint-Germain, il est arrivé, il a trouvé le moyen, alors quand il arrive, ils sont leaders, il rate le titre, mais bon, il se rattrape l'année d'après. Donc, et Chelsea, n'oublions pas, quand il les prend, pareil, c'était une équipe qui était très très forte. Là, il se retrouve chez un challenger. Clairement, en Italie, le numéro un, c'est la Juve, et largement.
Ensuite, ouais, mais il hérite d'un beau jeu, hein, parce qu'avec Sarri, ils ont...
Et oui, mais il hérite d'un beau jeu à Nîmes et qui a perdu son moteur. Jorginho, qui est parti à Chelsea justement avec Sarri. Donc moi, je suis très curieux de savoir comment Ancelotti va gérer cette situation parce qu'il est dans la position de l'outsider et il n'a pas les effectifs qu'il avait auparavant.
Il n'a pas réussi à avoir les recrutements qu'il voulait, Ancelotti. Et puis j'ai vu le match contre la Lazio, ils jouaient un tout petit peu à contre-courant. Ils ont gagné. C'est une équipe qui faisait le jeu l'année passée, donc...
C'est une histoire extraordinaire quand même, le retour d'Ancelotti dans son pays. Et c'est vrai que moi, je salue le courage parce qu'il a tout gagné. On l'a dit, il a passé les 10 dernières années en dehors de son pays à gagner partout où il est passé. Ça s'est mal fini au Bayern de Munich, mais il avait été
champion avec eux.
Voilà. Mmh. Et là, effectivement, réussir à amener ou enfin en tout cas à approcher le niveau du Napoli de celui de la Juve, c'est un défi énorme qui va être passionnant à suivre.
Ce n'est pas un défi énorme en tant que ça, puisque si Sarri a réussi à le faire,
mais c'est
avec 91 points.
Oui, mais ils ont été cette fois champions d'Italie, les autres.
91 points, et je peux d'ailleurs dire que il s'en est fallu de peu, parce que ce Naples-là, quand moi je l'ai vu, et aujourd'hui, on peut bien me dire qu'ils ont perdu Jorginho, mais en même temps, il a quand même fait quelques 4 ou 5 recrues, même si c'est pas les malcrues ne sont encore aussi fortes que ça. Jorginho, ce n'est pas un super... Non, moi j'ai vu le match.
Je les ai vus quand la Lazio, ils ont souffert presque tout le match, surtout les 15 dernières minutes.
Ce que tu ignores, c'est que la Lazio avait, par exemple, la deuxième attaque de l'année dernière.
La Lazio est une équipe coordonnée.
Voilà, donc et ils sont partis battre la Lazio à domicile et la Lazio menait au score. À une certaine période, il a par exemple des joueurs comme Insigne, Immobile, qui d'ailleurs pouvait même être le meilleur buteur, n'eût été les dernières secondes avec Icardi qui a eu à venir un peu dépasser. Donc, ils ont les Caleones et tout, c'est une attaque. Et même au milieu de terrain, ils ont Hamzik qui a maintenant hérité du capitanat. Moi, je trouve aujourd'hui que lorsque j'ai regardé cette équipe-là livrer le match, et encore qu'ils auraient pu marquer 3 autres buts, puisqu'il y a même un but qui est injustement refusé.
Donc
moi j'aime dire, mais de toutes les façons, c'est une équipe qui a un fond de jeu et qui a ceci. Et Ancelotti, quand tu essaies de regarder aussi Sarri, il aime faire bien le jeu et puis voilà.
Non, je pense que c'est,
il y a un problème africain. Chaque cheval trotte selon son maître et Ancelotti, il aime bien le jeu offensif.
Je suis moins optimiste que Rémi du coup par rapport à Ancelotti parce que c'est un joueur, dernièrement il nous a montré notamment avec le Real qu'il était excellent en contre notamment et puis en allant au Bayern de Munich en ayant hérité d'une équipe qui faisait énormément le jeu, il a eu d'énormes difficultés, mais avec cette équipe du Napoli, il n'a pas forcément les joueurs pour jouer ses contres flagrants, il n'a pas le grand attaquant, bien entendu Milic il est là, il est plutôt performant, mais je pense qu'il pourra pas forcément rivaliser avec des équipes comme la Juventus de Turin et même la AS Rome qui s'est plutôt mieux renforcée.
En tout cas, Anif, j'espère que Guillaume Ploquin a enregistré les propos de Rémy Ngono parce qu'on les repassera en fin de saison puis on rigolera bien quand même.
Oui, mais
on enregistre les vôtres aussi, on verra qui nous fera rire.
Surtout tes propos.
En première ligue, il y aura un très intéressant match entre Manchester United et Tottenham. Manchester qui reçoit et qui ne doit pas fléchir alors que on se demande qui dirige un peu ce navire, et en espérant aussi peut-être, Christophe Jousset, que Hugo Lloris aura la tête à ça, le capitaine de Tottenham.
Si on le fait jouer, oui.
Pas. Parce que et le capitaine des champions du monde.
Bon, il est un peu en difficulté aujourd'hui, Hugo Lloris. Il faisait une belle une de l'équipe aujourd'hui. On le voyait tout sourire. On se disait, tiens, interview signée Vincent Duluc. Intéressant. Et puis, inhabituel de voir Lloris aussi détendu, aussi souriant. Et puis, quelques heures plus tard, en début d'après-midi en France, les urgents qui commencent à tomber. Hugo Lloris libéré sous caution après avoir été retenu par la police à Londres parce que il a été 7 heures dans une cellule de dégrisement puisqu'il a été contrôlé, contrôle de routine dans la rue à Londres vers 2-3 heures du matin en état d'ivresse au volant. Et voilà, donc libéré sous caution, il sera jugé le 11 septembre.
On va dire que l'équipe lui a porté malheur entre guillemets.
Non, mais ça n'a rien à voir évidemment, mais c'est vrai que
ça contraste avec le personnage parce c'est plutôt une personne extrêmement rangée, même en équipe de France, on va
le genre idéal, c'est l'image qu'il donne.
De temps en temps, on peut prendre un verre de trop, mais voilà. Malheureusement, il est tombé sur.
Il faudra connaître les détails aussi pour véritablement avoir une idée là-dessus. En France, la Ligue 1 et deux stars du Paris Saint-Germain qui seront distingués demain sur la pelouse du Parc des Princes, juste avant le coup d'envoi de la rencontre PSG-SCO d'Angers. Deux trophées, un pour Edinson Cavani, meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier avec 28 buts, et puis Neymar, meilleur passeur, 13 passes décisives en une demi-saison, on peut dire, puisqu'il n'a pas joué si longtemps. Pour la première fois, en tout cas, depuis la reprise et le trophée des champions, Thomas Tuchel aura ses cadres à disposition, surtout à l'avant. Cavani est de retour de blessure. Mbappé, il a repris le rythme, on a bien vu, après sa Coupe du Monde. Et puis, il y a Neymar. Comment l'entraîneur allemand va-t-il tirer profit de ses meilleurs éléments? Alors, Dominique Sévrac, notre confrère que vous entendez ici de temps à autre du Parisien, eh bien, il dit dans son journal aujourd'hui que Tuchel aimerait faire jouer son équipe autrement. Alors, c'est des schémas tactiques, hein, passer du 4-3-3 au 3-5-2. Mais surtout, ça pourrait servir le numéro 10, qui est Neymar.
Pour Ney, à mon avis, il est notre leader quand il est content, quand il est heureux. Et il est notre leader in terms of the joy of the
voilà,
game,
Neymar, c'est un super leader. Il porte une grande influence sur toute l'équipe. Il prend des risques.
But at the same time, en même temps, il y a plusieurs façons en leadership dans une équipe. Et il y a aussi des personnes qui sont responsables pour la défense, pour la structure. Et ça, that's not his job to do. So, for me, it's not only one guy.
Donc, pour moi, il n'y a pas qu'un seul leader dans l'équipe. Mais Neymar, c'est sûr, c'est un des meilleurs et c'est un leader.
And of course, Neymar is one of them. This is.
Bon, alors vous avez compris, Thomas Tuchel, il maîtrise pas encore bien le français. Les Belges ne lui ont pas tout appris, puisque c'est là-bas qu'il prenait ses cours de français en attendant de venir au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment mieux pour Neymar, en fait, l'homme lige et la star de l'équipe, ou c'est mieux aussi pour le PSG, ce probable changement tactique que veut cet entraîneur, Xavier?
C'est clairement fait pour Neymar. Parce que Neymar, c'est lui qui incarne le projet du PSG. C'est lui qui a été recruté à prix d'or. C'est lui que l'émir a voulu voir tirer les pénaltys après l'histoire l'an dernier avec Cavani. Et pour tout vous dire, en début d'été, l'entourage de Cavani a demandé aux dirigeants du Paris Saint-Germain de ne pas afficher Cavani sur les affiches officielles d'ouverture de la saison, campagne d'abonnement, parce qu'il pensait vraiment partir. Donc finalement, il n'est pas parti, il est au club. Mais et on va voir comment ça va se passer d'ailleurs, parce que il reste très populaire et c'est un buteur incroyable. Mais le projet du PSG, c'est clairement Neymar, Mbappé. Voilà. Donc Neymar en soutien de Mbappé et des joueurs sur les côtés, bon, ils en ont à profusion.
Est-ce que ça arrange aussi voilà. Cavani finalement, donc, ce nouveau schéma de jeu?
Ah bah clairement non. Clairement non.
Et lui, il a toujours réclamé autant de Zlatan, on se souvient, il voulait être au milieu.
Mais bien sûr, mais je vous dis d'autant plus que Cavani avait intégré le fait qu'il allait quitter le club, que ça y est, qu'il avait fait le tour de Paris, que en plus il partait avec le titre de meilleur buteur de l'histoire, il a doublé Zlatan dans les annales. Donc aujourd'hui, le présent du PSG, c'est Neymar, Mbappé. Et effectivement, avec Neymar en meneur de jeu, en numéro 10 libre, Mbappé en pointe, avec des joueurs sur les côtés pour les servir, on a, je pense, une équipe plus cohérente.
Non, c'est pas tant Mbappé. Après, je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a un discours de façade qui est fait avec oui, le PSG en disant que c'est Neymar qui est au centre du projet. Mais il y a une idée, je pense, derrière. J'en ai discuté avec quelques amis du Paris United qui sont très bien informés sur le PSG. Ils disent aussi qu'ils veulent mettre Mbappé dans les meilleures conditions. C'est un changement qui est plutôt révolutionnaire, qui de plus en plus.
Kylian retrouve le poste qu'il avait à Monaco.
Entre guillemets, parce que la révolution, c'est que c'est un changement tactique avec le 4-5-2. Finalement,
3-5-2.
3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. Les 2 attaquants, c'est Cavani et Mbappé. Mbappé, finalement, il sera dans les meilleures conditions à peu près dans lesquelles il a évolué à Monaco, où il brillera beaucoup plus, sera beaucoup plus proche du but. Et puis Neymar, en jouant un peu au milieu, il sera là pour essayer d'orchestrer et toucher beaucoup plus de ballons.
Christophe, tactiquement?
Mais Cavani, a priori, dans les explications que fournit Dominique Sévrac, en fait, pourrait se contenter. Donc, si Dominique était là, il dirait qu'il n'est pas d'accord avec Xavier. Pourrait se contenter de partager le front de l'attaque avec Mbappé. Voilà. Donc, c'est un point de vue différent. D'autant plus que Cavani, en fait, en sélection, quand il joue avec l'Uruguay, il est
avec Suarez, oui,
sur le front en compagnie de Suarez. Donc, c'est une configuration qui lui est pas étrangère et qui lui réussit même aussi en sélection.
Rémi?
Non.
Non quoi?
C'est une mauvaise disposition tactique dans la mesure où...
C'est un peu la disposition à la mode actuellement.
Parce que, en même temps, je crois qu'un type comme Neymar, qui aime beaucoup conserver la balle et qui aime partir des côtés, ça va plutôt limiter son champ d'action. Parce que... lorsqu'il va se positionner là où le jeu est densifié, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut être plus dangereux en partant des côtés. Et d'ailleurs, c'est ce système-là que Messi lui-même, il a beaucoup eu à évoluer. C'est-à-dire que en partant d'un côté et en repiquant dans l'axe, il est beaucoup plus... et même Cristiano Ronaldo, c'est comme ça. Mais chaque fois qu'on a vu qu'ils viennent s'engloutir, s'embourber au niveau du milieu de terrain, ça risque d'être très très difficile. Certes, il va obtenir des coups francs, mais il n'aura pas la vitesse pour partir n'importe comment. Et quand on connaît la Ligue 1, ça peut être difficile. Et pour ceux qui me disent toujours que Neymar reste au projet, le projet du PSG, je ne pense plus. Neymar n'est plus le projet du PSG parce qu'aujourd'hui, Neymar...
Officiellement, il l'est.
Ah bon,
si. Non mais c'est pour vous dire, Rémi, justement, officiellement il l'est, mais effectivement
un seul bras n'applaudit pas, dit un proverbe africain. Donc pour moi, Neymar d'ailleurs, qui a presque un pied au Real Madrid, ne constitue pas l'avenir du PSG, parce que c'est quelqu'un qui a d'autres ambitions. Ah oui, ça peut être cette saison, mais à long terme, c'est pas évident.
Dans la continuité de ce que dit Rémi, c'est important, parce que là on nous explique entre guillemets qu'il y a une sorte de modus vivendi, c'est-à-dire un mode de vie Neymar Mbappé entre guillemets, qui sont redevenus copains tout à coup. Alors ce qu'on nous a expliqué, que l'année passée il y a eu quelques frictions dans le vestiaire, notamment où ils se parlaient plus tellement. La montée de Mbappé, moi j'ai vu le match contre Montpellier, quand Mbappé a mis un doublé, va naturellement, avec des égos, Mbappé a un égo incroyable.
C'était Guingamp.
Ça va redonner naturellement une sorte de rivalité entre les deux, et Mbappé ne va pas arrêter de flamber. Dans cette position, aux côtés de Cavani, Mbappé sera deux fois plus efficace, et naturellement on verra que Neymar sera mis à mal, et surtout si Mbappé a le ballon d'or.
On verra dans le championnat et on verra déjà ce match donc qui aura lieu demain. Et puis il y a des rencontres importantes ce week-end en Ligue 1 et ça sera pour Marseille et Bordeaux. Alors à des titres différents bien sûr, l'un ne rencontre pas l'autre, mais l'OM au Vélodrome reçoit Rennes pour faire oublier un peu sa triste défaite à Nîmes la semaine dernière. Et puis les Girondins sont sans entraîneur, mais eux recevront Monaco après leur barrage en Belgique plutôt réussi. Hein. Ils ont ramené un 0-0. Match nul, voilà, contre la Gantoise.
Ça aurait pu être encore mieux, mais bon, c'est déjà bien.
Ça aurait pu, mais déjà ils ont limité et peut-être qu'ils pourraient.
Aussi, ouais.
Voilà, ils ont peut-être pas la tête à ça et donc ils pourront peut-être disputer la Ligue Europa l'année prochaine. Mais cette équipe de Bordeaux, est-ce que elle a la tête au championnat? C'est ça qu'on peut se demander quand même, Xavier, parce que il y a plus Poyet, on annonce Thierry Henry et puis dans les faits, il y a des matchs à jouer.
Il y a des matchs à jouer et surtout ils les ont perdus jusqu'à présent. Donc c'est ça qui est très
ennuyeux.
Voilà,
en championnat
ils ont perdu
et ce match nul.
Aussi bien à domicile qu'à Toulouse, le derby de la Garonne le week-end dernier. Donc il faut absolument que les Girondins se reprennent. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a ce flou un peu à tous les étages, parce qu'il n'y a pas que le changement d'entraîneur, il y a aussi le changement de propriétaire. Et l'un conditionne l'autre. Donc évidemment, cette période de
flou. Et un mercato qui se termine dans 8 jours.
Oui, donc avec cette incertitude pour certains joueurs, bon. Il n'y aura pas beaucoup de nouveaux joueurs qui vont arriver, je pense, d'ici la fin du mercato, comme vous l'évoquez, Annie. Donc forcément, ces joueurs qui sont là aujourd'hui sont ceux qui ont des places à gagner avec le nouvel entraîneur, quel qu'il soit. Donc il va falloir qu'ils sachent réagir de façon positive, parce que dans le lot, moi j'entends dire, il faut que Bordeaux recrute. Oui, mais il y a quand même sur le terrain un potentiel pour faire mieux que dernier de la Ligue 1, comme c'est le cas actuellement.
Rémi, Bordeaux?
Bordeaux, moi j'avais déjà dit, c'est un peu bordélique, et puis voilà, c'est ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire que un entraîneur qui, bien sûr, parce qu'il a eu à se plaindre, on le jette, et puis maintenant on dit que il y a un potentiel.
C'est un peu auto-jeté. Hein.
On me dit s'il y a le potentiel. Moi, je vois pas ce potentiel-là. Une équipe comme Bordeaux. Vous vous souvenez de quel joueur Bordeaux a pu recruter qui valait de l'or?
Moi, je me souviens de Malcolm, mais il est parti.
Gourcuff, en dehors de lui qui a coûté 13,5 millions d'euros en 7 ans.
Ouais, ils ont pris de Préville, donc ça va.
Donc ça ne vaut pas la peine. Donc, à une certaine période aujourd'hui. Voilà, et ils veulent. Ils veulent faire le championnat, ils n'ont pas d'entraîneur et tout, et ils veulent aller où?
C'est compliqué.
Ils veulent aller où sans tête, sans
En Ligue Europa.
En Ligue Europa, pour l'instant, ils vont en Ligue 2.
Ouais, le pire justement pour Bordeaux, c'est la Ligue Europa, c'est qu'en plus ils ont
ça
un effectif.
Ça serait le plus, mais est-ce que ça va pas leur prendre beaucoup d'énergie?
Le plus qui va devenir certainement le boulet pour leur saison, parce que le fait d'être engagé en Ligue Europa, j'ai vu qu'ils ont beaucoup fait jouer des gamins du centre de formation avec beaucoup de jeunes qu'ils ont fait signer pro cette année. Ils vont se retrouver en incapacité de lutter en championnat entre guillemets s'ils sont toujours en course en Ligue Europa, parce que cet effectif là n'est pas un effectif de qualité et ça va être problématique. D'ailleurs, la réunion qu'a eu Henry avec les nouveaux propriétaires.
Oui, il est allé aux États-Unis.
Aux États-Unis, il exige justement qu'il y ait 3, 4, 5 recrues avant de venir. C'est garanti là. En 5 jours, ça va être extrêmement difficile.
Et puis alors, on a l'OM. L'OM, Christophe Jousset, qui joue, qui reçoit Rennes, après une semaine qu'on a dite un peu noire hier dans Radio Foot, entre cette histoire Balotelli qui s'est mal terminée pour eux. Après, on leur a rendu Clinton G. Donc, il y a Rudy Garcia qui nous dit ou qui fait savoir qu'il a engueulé tout le monde après le match contre Nîmes. Donc, on attend une réaction, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. L'OM aborde la saison avec beaucoup d'ambition. Donc, effectivement, comme ils se sont fait bouffer, pardonnez l'expression, par les Nîmois, il va falloir montrer tout à fait autre chose dans la manière d'aborder cette troisième journée.
Rémi?
Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'OM. Pourquoi? Parce que la saison dernière, c'est ce que les gens n'ont pas pu constater.
L'OM, je crois qu'on était déjà inquiets, vous vous souvenez, juste avant la finale, qui perd de tout, entre guillemets.
Qui perd de tout. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé.
Et on en est là.
Pourquoi? Parce que c'est arrivé à une certaine période où il n'y avait plus de carburant dans le moteur. Donc, à une certaine période, vous avez vu, ils ont commencé à décliner contre Montpellier. C'est là où ils se font doubler par Lyon. Ils font un match nul. Mmh. Et par la suite, il y a autre chose aussi. C'est-à-dire, après, ils vont perdre contre Lyon à 2-0. Et celui qui était qu'on appelait El Fenomeno, qui était le rempart, le dernier rempart, c'est qui? C'est Mandanda. Dernier. Aujourd'hui, Mandanda se rue, blesse à tout moment, puisque ce match-là, déjà, il était blessé. Cette c'est fois-ci, il se blesse encore. Il a 33 ans. Il ressemble déjà à quelqu'un qui a joué plus de 500 matchs de Ligue 1, alors qu'il n'en est qu'en 366. Donc, aujourd'hui, quand vous essayez de regarder derrière, vous voyez aussi Rami. Rami est en train de ramer comme une sorte de train marchandise. Et quand vous regardez maintenant cet autre effectif-là, vous vous dites que, mais Luis Gustavo, il n'a plus le peps qu'il avait.
Mais il est trop seul, surtout. Oui, mais il est surtout trop seul, peut-être.
Il est trop seul parce que Samson Lopez et consorts, ils ne pèsent pas. Ils ne savent pas faire une passe à 2 mètres. Donc, à une certaine période, je me dis aujourd'hui, on a sauté, on dansait que l'OM est en train d'arriver en Ligue Europa, en finale et tout, mais en réalité, en perdant cela et en perdant la Ligue des Champions, ils n'ont pas eu à danser. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on coupe la tête du coq, quand il saute, on croit qu'il est en train de danser alors qu'il pleure.
C'est un proverbe de Bamenda, ça. Non, mais cette équipe de l'OM, surtout les dirigeants, ils sont restés sur les certitudes de fin de saison qui, finalement, aujourd'hui, leur portent préjudice parce qu'ils étaient trop sûrs.
Ils ont pas écouté Radio Foot parce qu'on s'inquiétait déjà. Ouais, c'est incroyable parce que la finale.
Je pense qu'ils sont, à la fois un peu têtus aussi. Marc Courte et surtout le président Héro.
Un peu avare.
Et puis, un peu avare aussi parce qu'ils étaient trop sûrs d'eux. Et finalement, là, je pense que moi, à mon avis, heureusement que le mercato n'est pas terminé. Quoique, ils vont pas recruter plus de trois joueurs.
Si vous sortez Radonjic, c'est ça?
Radonjic, joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade.
Ça
ils vont peut-être
le
prendre. Mais au milieu de terrain. Mais moi, ce que je trouve terrible, et je trouve d'autant plus correct la défaite qu'ils ont eue face à Reims avec un excellent Denis Bouanga, c'est que le discours de Jacques-Henri Hérault, voilà, il dit que finalement c'était soit Balotelli ou rien. Mais c'est incroyable d'avoir ce discours-là, surtout après avoir vendu du rêve à des supporters marseillais. Pas que les supporters de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille a un énorme monde de supporters sur le continent qui souffre aujourd'hui du comparatif avec Paris, et le fait de n'avoir pas eu Balotelli et n'avoir pas eu une recrue phare, ça fait très très mal aux égos.
Je pense qu'ils vont souffrir pendant une bonne partie.
Et Zambo Anguissa au milieu, parce qu'au moins c'est lui, ça, physiquement, comment le remplacer. Voilà, il coupait les trajectoires, il fermait les angles et tout.
Jusque là, il a pas fermé beaucoup d'angles en Angleterre, Zambo.
Bon. Ah oui, mais en Ligue 1, il brillait.
Et puis ils ont perdu depuis hier soir Henri Bédimo. Enfin, ils l'ont pas perdu, ils l'ont renvoyé. Une histoire un peu sombre, mais bon.
Une histoire triste surtout, parce qu'il mérite pas ça. Bédimo qui a été exemplaire depuis qu'il est à Marseille, et notamment dans le vestiaire, même quand il ne jouait pas.
On a l'impression que, en tout cas, lui dit c'est un prétexte fallacieux et abusif. On verra ce que dit la justice, ce que disent les prud'hommes, mais effectivement, c'est pas tellement à l'amiable.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Le plus court chemin pour aller de la Jamaïque à Manchester passe par l'Australie. Et oui, même lorsque l'homme qui court le plus vite de la planète, bien sûr, je veux parler de Usain Bolt, veut rallier ces deux endroits. Car l'ancien athlète aux 8 médailles d'or, qui a 32 ans, garde la forme. Et il s'entraîne non plus pour faire les prochains JO, Christophe Jousset, il s'entraîne pour devenir footballeur et peut-être même un footballeur professionnel. Écoutons-le.
Un de mes plus grands rêves a toujours été de jouer pour Manchester United. C'est peut-être mon plus grand rêve, même si c'est pour 1 ou 5 matchs. Pour l'instant, je n'en suis qu'au début et j'apprécie vraiment tout ce que les Mariners ont fait. Ils m'ont donné l'occasion de faire mes premiers pas. Je suis vraiment heureux et je veux les remercier pour ça. Je sais qu'ils vont me soutenir, j'ai hâte de jouer, de marquer autant de buts que possible et remporter un maximum de trophées.
On pourrait résumer par I have a dream, n'est-ce pas, Christophe? Alors en plus, il veut marquer des buts, Usain Bolt. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension sportive dans tout cela ou seulement un gros coup de pub de son sponsor? Nos confrères de SoFoot qui ont toujours le bon mot parlent d'un gros délire et parlent aussi d'un cirque armé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe? Nos auditeurs le savent, vous êtes grand spécialiste de Usain Bolt. Regardez pas comme ça, vous l'avez approché plus que moi. Vous suivez l'athlétisme?
En fait, ça fait des années qu'il parle de cette histoire de jouer au foot, Usain Bolt. La première fois, c'est c'était en 2010 déjà, il disait mon rêve c'est de devenir footballeur professionnel. Donc
alors avec la Jamaïque effectivement, il vaut mieux aller jouer à Manchester.
Ouais, mais enfin chacun doit décider s'il n'y a que de la sincérité dans ce rêve de gosse ou bien s'il y a aussi une part de calcul par rapport au business et à tout la place que ça prend dans les journaux et dans nos discussions. Ce qui n'est pas totalement exclu non plus. Maintenant
un peu des deux.
Il a quel âge Usain Bolt? Il a 32 ans et
il a toutes ses jambes lui.
Oui, il a toutes ses jambes, ça c'est sûr, ses qualités de vitesse sur ça on peut pas l'attaquer et il
un
peut
peu
faire
moins
la différence.
Ces derniers temps quand même, hein.
Comment?
Un peu moins ces derniers temps, il a été souvent blessé, il a perdu les championnats du monde l'année dernière.
Sa sortie n'a pas été super réussie.
Mais enfin, et puis quand vous dites il rêve de ça depuis 2010, effectivement, je suis pas spécialiste d'athlétisme comme Christophe Jousset, mais je l'ai entendu également. Mais s'il était vraiment demandeur, pourquoi est-ce qu'il a poursuivi sa carrière dans l'athlétisme au lieu de tenter une reconversion plus tôt? Là, ça vient vraiment en fin de carrière. On a le sentiment que c'est effectivement un peu, comme vous dites, le cirque ou le.
Mais est-ce qu'on est fatigué à 32 ans quand on a été un athlète de si haut niveau, Christophe?
C'est pas une question de fatigue, c'est une question de qualité technique d'aptitude à être footballeur professionnel.
Non, mais la forme physique, je pense qu'il l'a. C'est peut-être
Il a même pas la discipline. Les dernières compétitions auxquelles il a participé, il prenait l'entraînement de plus en plus tard. Et la dernière fois, donc, c'était le championnat du monde l'an dernier. Il a pas pu défendre son titre. Donc aujourd'hui,
il était troisième.
Oui, mais bon, pour un gars qui a toujours survolé, c'est un échec.
Il a souvent débuté ses saisons par des blessures, parce que c'est un grand gabarit et qu'il a eu des problèmes de dos.
Qu'il faisait la Java et qu'il se préparait pas. Mais quand vous êtes champion, quand vous êtes un grand sprinter, que vous faites déjà, vous mesurez 2 mètres et que vous faites des grands pas qui font que vous en faites un pendant que les autres en font 10. Donc forcément, à chaque fois, vous gagnez les Jeux Olympiques, les championnats du monde et vous avez des médailles d'or, c'est très facile. Avec ses capacités physiques, moi je trouve pas que ce soit extraordinaire. Ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'il ait duré aussi longtemps. C'est vrai, jusqu'au moment où ça ne suffit plus, parce que il faut être bon quoi. Il faut être bon
un mois dans l'année. Là,
il peut pas. Il faut être au taquet physiquement. 10 mois sur 12. Lui, il n'a jamais été dans sa carrière d'athlète que une semaine ou 15 jours par an.
Non, il faut pas être en pleine forme pendant seulement un mois, Xavier. Il faut être en forme sur toute une saison pour pouvoir.
L'athlétisme, c'est 2 mois.
Oui, c'est aussi une histoire de confiance. Il faut gagner quelques courses avant d'arriver.
C'est 2 mois. Là,
il faut être capable d'enchaîner.
Qu'il n'est pas un amateur d'athlétisme.
J'aime beaucoup ça. J'en ai fait quand j'étais jeune aussi.
Le problème dans les championnats du monde ou dans des grands championnat des Jeux Olympiques, il faut être capable d'enchaîner un premier tour, des demi-finales, la répétition des courses, c'est quelque chose d'important aussi.
Rémi, certains qui l'ont observé parce qu'il a fait des matchs caritatifs disent il a des foulées très grandes, mais aussi trop grandes.
2,65 mètres la foulée.
Pour avoir une conduite de balle assez précise.
C'est normal, c'est-à-dire que Usain Bolt, ce serait très beau de le voir sur un terrain de football.
Il va doubler Mbappé
peut-être. Non, il ne va pas doubler Mbappé. C'est qu'il va toujours entrer dans les filets avant que le ballon n'y arrive. Donc lui, tout le temps, il sera en train de déchirer les filets. Soyons sérieux, quelqu'un qui n'a pas pratiqué un sport, c'est à peu près comme moi, je rêve aussi de devenir voleur. À ma vieillesse, attendez, il faut quand même arrêter. Donc aujourd'hui, Usain Bolt se découvre comme un footballeur, pas amateur.
Non, c'est le coup
ou pas,
il le dit depuis quelques années.
Mais il se dit quand même, et il veut être professionnel, et il mise où? Il mise Manchester United. Alors que lui et moi, au quartier, nous pouvons faire des matchs amicaux, des matchs caritatifs, parce que je sais au moins ce qu'il peut. Oui, au niveau de la vitesse, il peut me doubler.
Ton ami José Mourinho ne veut pas.
Sauf que je saurais peut-être mieux conserver la balle par rapport à lui, parce que lui, il aura de longues chevauchées, et ça risquerait de créer un problème. Usain Bolt au football, c'est l'histoire du poisson qui rêve d'aller voler sous le soleil.
Bon, donc, coup de pub. Freddy, vous êtes aussi circonspect.
Non, mais au départ, l'histoire était plutôt marrante. D'ailleurs, quand il le disait, il le clamait. Christophe, il a totalement raison. Il le dit depuis des années qu'il a envie de jouer au football, mais ça ressemblait plus à un rêve inatteignable. Mais aujourd'hui, on le voit bien qu'il se sert de sa grosse cote, du grand amour qu'on a pour lui.
Oui,
et surtout,
parce qu'il ne pouvait pas choisir un plus petit club et un
après,
club plus
loin.
Après,
c'est pas tant un choix. C'est un grand fan de Manchester United. Il a souvent clamé. Il a souvent dit.
Mais là, il est en Australie avec les Mariners.
Il ne rêve pas fondamentalement de venir à Manchester United. Je pense qu'il se sert, comme je disais, de ses de des partenaires qu'il a, des amitiés qu'il a. Il était à Dortmund parce qu'il a un partenariat avec son équipe.
Ouais,
là, il est allé à Manchester parce que justement, il a la possibilité d'entrer dans le vestiaire qu'il veut. Mais
ouais,
voilà,
mais là,
c'est
il a quand même la possibilité voilà.
même
d'avoir un contrat avec un club australien.
Toi, ce qui est incroyable, c'est vous avez vu le, vous avez l'interview qu'il a donné. Il a dit qu'il a eu quelques clubs et même en France, il y a quelques clubs qui l'ont proposé. C'était pas des clubs professionnels, mais qui lui ont proposé justement de venir jouer. Pourquoi il propose à ce joueur-là de venir notamment en Australie? Parce que je pense que ces clubs-là se mettent en lumière fondamentalement du fait de sa présence dans le club.
Moi aussi, j'ai eu beaucoup de propositions. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de propositions.
Oui, je sais.
Donc, ah ben ça, et d'ailleurs, au Gabon, on me va actuellement. Les écureuils du Bénin m'ont dernièrement convoqué et puis ils m'ont demandé si je... Bon, donc, actuellement, Claude Leroy est avec moi en discussion pour voir comment est-ce que je peux faire pour aller aux Éperviers.
Mais c'est quoi votre rêve, Rémi? C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve?
Être capitaine des Éperviers.
Pas président de la République au Cameroun.
Nos cartons.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Pour une fois, Radio Foot donne la parole à un auditeur, Ben Loumou de Kinshasa, qui donne un carton rouge à la direction du Barça, parce que Alejandro est pas là, on peut le donner. Après avoir offert Neymar au PSG, ils veulent leur offrir Rakitic, tout ça pour avoir Rabiot et surtout de l'argent. Il y a un proverbe africain qui dit « Ce n'est pas parce que tu veux de la sauce que tu vas retourner la marmite chaude sur ta tête. »
Pas mal ça.
Ça fait rire Rémi.
1-0 pour lui et contre Rémi là.
Allez Rémi, votre carton.
Alors, carton vert même comme ma face Facebook Rémi Gonnet officiel est bloqué, mais vous pouvez quand même consulter, contacter Koufran, www.koufran.com
oui,
et je donne donc le carton vert à Emmanuel Eboué, justement, qui a tout perdu, à savoir que femme, richesse et tout, et hop! Une très bonne nouvelle, à savoir que la justice anglaise a décidé de le relaxer finalement, d'abandonner les charges qui étaient contre lui. Donc, au moins, il ne pourra pas aller en prison. Une très très bonne nouvelle pour Emmanuel Eboué, qui pouvait quand même vivre peut-être pauvre, mais, comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un chien libre qu'un éléphant en cage.
Pas mal.
Un ange passe. Freddy,
moi
à vous le relais.
J'ai un double carton vert pour deux sélectionneurs, entre guillemets, ou deux sélections. D'abord le Sénégal, parce qu'il y a la première convocation de l'excellent gardien qui prend d'ailleurs malheureusement la place de Kadim Diaye, Edouard Mendy, qui a été sélectionné pour la première fois avec les Lions du Sénégal. C'est
le gardien de Reims.
Stade de Reims.
Ouais,
il est génialissime. Et puis,
il avait dit qu'il se mettait à disposition il y a quelques jours.
Justement. Et puis, un autre carton vert au Gabon. La sélection de Camacho, il a envoyé sa sélection par WhatsApp également. ils ont sélectionné deux joueurs de Manga Sport, un club de l'Est du Gabon, qui ont 17 ans, qui ont brillé avec les U20. Et je pense que c'est un bel appel et une sorte de message envoyé aux jeunes footballeurs du Gabon qui, eux, sont vraiment, entre guillemets, dans la misère parce que le championnat de football au Gabon est en petite crise, entre guillemets.
Ouais. A du mal à se tenir. Christophe?
Un petit carton vert pour le Nîmes Olympique, qui est le club en vogue de ce début de saison.
Vous aimez les crocodiles.
Oui, ça s'est passé. Bah, ça rappelle des périodes. Enfin bref. Ouais. Tout à l'heure, le PSG a annoncé que Areola serait titulaire pour les deux prochains matchs et que ça serait plus Buffon. Et le Nîmes Olympique, sur son compte Twitter, a réagi en s'adressant directement à Buffon. Faut pas avoir peur, Gianluigi Buffon. C'est ça. Ça met un peu de légèreté, ça remet les choses à leur place. Ouais. Ce n'est que du football.
Le football n'est qu'un jeu, ne l'oublions pas. Xavier.
On est en direct, on s'est pas concerté avec Christophe Jousset. J'allais mettre aussi un carton vert au Nîmes Olympique. Du coup, je vais en mettre un au Stade de Reims parce qu'en fait, les deux promus de la Ligue 1 sont tous les deux co-leaders avec notamment le Paris Saint-Germain, avec deux victoires chacun. Et je trouve que c'est un bel exemple pour le football français que les promus arrivent à si bien débuter le championnat.
Ça n'était pas arrivé depuis 1962 que deux promus gagnent deux matchs. Nous, on met un carton vert au Liberia car le championnat reprend. Alors, il va pas durer très longtemps. Il durera deux mois. Il y a 12 équipes réparties en deux groupes, mais peut-être que grâce à un président qui a brillé dans ce sport, eh bien, c'est le début d'une nouvelle aventure pour les footballeurs de ce pays. Lui, George Weah, qui a aujourd'hui décoré Claude Leroy et Arsène Wenger. Et puis, je vais vous demander... Voilà.
Xavier,
bon anniversaire Xavier Barré. Hein, parce que quand même, quand un copain,
Xavier Barré.
Regardez-moi ce gâteau.
Joyeux
Rémi va lui faire une bise aujourd'hui.
Bon, on vous dira pas combien il y a de bougies sur le gâteau, hein. Mais c'est pas grave. Xavier est tout ému.
C'est à peu près comme Usain Bolt. À peu près.
Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans ce café des sports. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé aujourd'hui à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation. On vous retrouve tous la semaine prochaine, évidemment. Il y aura notamment Christophe Jousset, hein, qui fera quelques petits remplacements au micro la semaine prochaine.
Absolument.
Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.